Bienvenue au podcast Génération YZ. Je suis votre animatrice Élodie Laflamme, une entrepreneure web passionnée de développement personnel et de spiritualité. Génération YZ a été créée en 2020 pour mettre l'humain en lumière. Ici, je te présente des personnes inspirantes que j'ai rencontrées sur mon chemin qui nous partagent leur histoire. Dans cette quatrième saison, nous aurons des conversations vulnérables qui nous apporteront du courage pour avancer et tu en apprendras plus sur mon quotidien, mes défis personnels et mes apprentissages. J'ai comme mission d'aider le plus de femmes possible à créer leur empire de rêve, les accompagner à prendre soin d'elles et les guider vers leur plein potentiel. N'oublie pas qu'il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Let's be all in! Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast Génération YZ dans la saison 4. Très contente de vous retrouver en ce dimanche pour un nouvel épisode avec une invitée extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer grâce aux médias sociaux. On aura beau dire ce qu'on pense du monde du web, mais ça a quand même ses avantages. Et c'est une femme qui aide les autres à mieux prendre soin de leur argent. Donc aujourd'hui, oui, on va parler de finances, quelques conseils autour du sujet. Si ça vous rend inconfortable juste entendre le mot argent, je vous invite quand même à rester parce que ça va être juicy comme épisode. Mais le but, c'est aussi de la mettre en lumière, de vous la présenter, puis d'en savoir plus vraiment sur son histoire, peut-être des parcelles de sa vie qu'elle ne partage pas nécessairement sur les médias sociaux. Puis aujourd'hui, on va apprendre à mieux la connaître. Donc, Émilie Charlebois, bienvenue sur le podcast.
Merci de l'invitation, faut l'apprécier.
Ça fait plaisir. Comment tu vas aujourd'hui?
Ça va super bien, toi?
Ça va bien aussi. Vraiment contente de te recevoir pour vrai parce que, je sais pas qu'on se parle, on est rempli d'énergie. Puis on est quand même deux personnes sérieuses, je dirais, comme tu sais, sérieuses à son affaire, mais full, genre énergie souriante, bubbly en même temps.
Ah, oh, ok, oui. Ouais.
Je sais pas,
on dirait que t'hésitais pour dire ça, mais oui, ça fait bien ensemble.
J'aimerais faire que commencer par poser la question, tu sais quoi? Qui t'allume dans la vie. Tu sais, souvent, la première question, c'est qui tu es, puis là, c'est difficile de se définir en une phrase. Mais si tu me parles juste de qu'est-ce que t'aimes dans la vie, dans tes temps libres, qu'est-ce qui te drive, si on veut, dans ta vie?
Qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce que j'aime? C'est une vraiment bonne question pour commencer. Bien, je te dirais que dans les dernières années, j'ai vraiment compris l'importance de prendre du temps pour soi, surtout en tant que maman, on risque d'en discuter, mais oui, je suis maman de deux enfants, puis on a tendance à penser que nos enfants doivent être notre priorité, mais au fond, une maman heureuse fait des enfants heureux. Fait que oui, je dirais que je suis comme passionnée de vouloir trouver des moyens de prendre soin de moi. C'est jamais parfait, on s'entend, c'est pas une route linéaire, c'est toujours rempli de tournants, mais c'est oui, effectivement, je dirais que de vouloir me mettre de l'avant, prendre soin de moi, faire attention à ma santé, autant physique que mentale, je te dirais que c'est presque devenu une passion. Pour ne pas dire une priorité, mais ouais, j'aime bien ça.
Ouais, et puis qu'est-ce que ça signifie pour toi prendre soin de toi? Tu sais, je sais que tu t'entraînes. T'es-tu une personne qui aime prendre soin d'elle plus solo, plus peut-être avec des amis? Pour toi, c'est du self-care. Ça ressemble à quoi?
Ouais, solo. Je me suis vraiment rendu compte de ça. J'ai besoin de mes moments seuls. Je m'en suis encore plus rendu compte depuis que je suis maman. Je veux pas les moments seuls. Ben là, j'ai un conjoint, j'ai deux enfants. Fait que si je suis pas en train de travailler, mes enfants et mon chum sont à la maison. Fait que c'est sûr que les moments seuls sont pas très présents. Mais je me suis rendu compte que j'ai besoin de ces moments-là. Fait que j'essaie de toujours m'accorder des petits moments dans une journée de travail parce que sont importants pour moi. Puis au début, c'était pas facile. Au début, je me sentais quasiment mal. Je me disais, je peux pas m'accorder ces 15 minutes-là. Là. Émilie, va faire tes affaires, va ramasser à la maison, va faire du lavage. Mais au fond, comme avec du recul, j'ai bien compris que c'était bien plus bénéfique pour moi de prendre ce petit 15 minutes-là.
Ouais, puis tes enfants ont quel âge pour mettre les gens en contexte?
Oui, 2 ans et 3 ans.
Puis t'es eu à quel âge?
24 et 25.
Quand t'es 25, OK. T'étais-tu le genre de personne qui disait ah, « moi, plus tard, je vais avoir une grande famille. Est-ce que tu trippais enfant? » C'était quoi un peu ta mentalité avant d'avoir les enfants versus après, peut-être?
Oh mon Dieu, ça me ferait que tu me dises parce que rapidement, là, tu demanderais à ma mère la première chose que je disais quand j'étais jeune. Je disais toujours que je voulais pas d'enfants parce que je disais que des enfants, c'était innocent.
Ah!
Je disais, des enfants, c'est bien niaiseux, c'est bien con, des enfants. Parce que moi, j'ai gardé longtemps des enfants quand j'étais jeune. Je suis comme, ben voyons,
Okay.
comme... En tout cas, j'en ai vécu des vertes puis des pommes quand que je faisais mon petit gardiennage quand j'étais jeune. Puis j'ai dit à ma mère, non, 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 moi, pas question que j'aie des enfants. Bref, en vieillissant quand même, je me suis dit, ah oui, effectivement, j'ai envie de fonder une famille. Puis j'ai vraiment changé de tout au tout. J'ai vraiment décidé que je voulais être une jeune maman. Je sais pas pourquoi, j'étais dans mon idéal d'être une jeune maman. Je voulais être en forme pour mes enfants. Je voulais qu'ils quittent la maison. Puis après ça, j'ai encore une vie devant moi. Fait que j'avais tout mis ça en place. Fait que ouais, effectivement, ça a tourné que j'ai voulu des enfants, finalement.
Yes, puis j'imagine que tu avais aussi ton conjoint sur ton chemin. Tu sais, des fois, on veut des enfants, puis ça donne pas. Il y en a qui n'ont pas la chance, on veut de rencontrer leur personne. Toi, ça faisait-tu longtemps que vous étiez ensemble?
Ouais, ça faisait 4 ans, si je me trompe pas. Fait que
OK,
on était bien
quand même.
établis. Ouais, ça faisait
Ouais.
un bon 4 ans. Tu sais, j'avais ma maison, j'avais comme nouvelle maman, mon emploi quand même assez stable. Ben, ça faisait quelques années, là, tu sais, un bon 2, 3 ans. Fait que, tu sais, j'étais quand même bien établie, je me sentais prête. Fait que je me suis dit, c'est bon, on le fait. Il n'y a pas de moment parfait, évidemment, là, comme tu te sens jamais prête à devenir mère. Mais bon, j'ai estimé que c'est un bon moment.
Ouais, 100%. Puis là, avant, tu étais employée, puis là, tu es rendue aussi entrepreneur. Est-ce que être maman entrepreneur, c'était quelque chose que tu prévoyais avoir comme titre dans la vie?
Ben, j'ai toujours su que, tu sais, j'avais la drive d'une entrepreneur. J'ai toujours su aussi que je fitais dans un cadre, c'était pas fait pour moi. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Me faire dire quoi faire, j'ai de la misère. À l'école, j'étais vraiment terrible avec ça, puis ça a toujours, toujours resté. Fait que d'être dans un cadre, je savais que c'était pas possible pour moi pour toute la vie. Si rapidement, peut-être pas, mais bon, tu sais, la vie, des fois, fait en sorte qu'il y a des trucs qui arrivent, puis tu te dis, j'ai quasiment pas le choix. Faut juste faire mes projets. Fait que oui, j'ai quand même toujours su que c'était au fond de moi. Peut-être pas concrétisé comme ça, mais oui, 100%.
Puis les gens, les mamans en fait qui nous écoutent, qui aimeraient ça éventuellement starter leur business, y a-tu, tu sais, des fois on entend les gens dire ah, attends que tu sois plus vieux ou tu sais, attends d'être sûr, des choses du genre. Y a-tu des moves peut-être que toi t'aurais fait d'une autre façon ou des conseils que t'aurais à leur dire?
Ouais, ben rapidement, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est de pas se mettre de pression, de pas se faire des idées, parce que, tu sais, je te dis rapidement, c'est des choses que je parle pas beaucoup sur mes réseaux sociaux, ma vie de maman, parce que je l'ai vécu assez difficilement, là. Chacun, tu sais, le vit à sa façon difficilement, mais ça a été quand même un gros parcours difficile dans ma vie, là, de devenir maman. Puis moi, je me disais, ah, oh, même avec mon bébé, je vais pouvoir travailler, puis tout ça, mais j'en voyais là des mamans qui roulaient tous ces rôles-là en même temps, qui jonglaient parmi tout ça, d'être maman avec un bébé naissant puis travailler, mais pour ma part, ça n'aurait pas été possible, comme tout simplement pas possible. Puis je pense que ça m'aurait vraiment fessé, découragé de me faire des attentes, de me dire oui, je vais travailler, je vais faire 15, 20, 25 heures par semaine avec mon bébé, alors que c'était juste pas possible pour moi, vu les conditions de mes enfants, par exemple. Fait de se faire aucune attente. On peut pas prévoir le bébé qu'on va avoir, on peut pas rien prévoir en tant que tel, on peut pas prévoir la santé de personne non plus. Fait que je dirais aucune attente, je pense que c'est le meilleur conseil selon moi, parce qu'après ça, c'est là que t'es déçu, c'est là que tu entres, t'sais, un peu l'anxiété de performance, de dire je suis capable de faire plus, mais t'sais, ton enfant va être, c'est lui qui va dicter là, comment vont aller tes journées. Fait que tu choisis absolument rien puis tu suis le flow.
Puis toi, quand t'as eu ton premier enfant, t'avais quel emploi? Qu'est-ce que tu faisais?
J'étais salariée à ce moment-là. J'étais conseillère à la caisse, dans une caisse de jardin.
Il a fallu que tu fasses une pause sur ton emploi ou t'as tout simplement démissionné ou comment ça s'est passé?
Ben, je suis restée à la caisse. J'ai fait, tu sais, toute ma grossesse, là, j'ai arrêté, mon Dieu, je pense qu'à 38 semaines, j'ai arrêté. Puis, finalement, j'ai arrêté officiellement à la caisse, je te dirais, quand je venais d'accoucher de mon deuxième.
OK. Puis c'est là que tu t'es lancé vraiment à ton compte ou il y a eu d'autres choses? OK. Parfait. Puis là, tu baignes maintenant dans le monde de la finance, qui est un domaine qui peut être moins sexy, honnêtement, mais personnellement, plus je lis là-dessus, plus je m'informe, plus dans le fond, c'est tellement intéressant. Puis il y a tellement de choses, my God, que on nous apprend pas ou qu'on sait pas. Tu sais, autant en tant qu'entrepreneur, mais tu sais, après ma barre, en tant que personne, tout simplement solo, tu sais, au niveau plus personnel, il y a plein de choses qu'on sait pas. Puis, c'est juste confidence, mais la semaine passée, on était à un souper de famille avec Loïc, puis son père, il expliquait c'est quoi la différence entre un CELI puis un REER. Puis là, j'étais arrivée, bon, je dis ça, mais j'étais arrivée chez nous, puis j'étais comme, je peux pas croire que tu sais pas c'est quoi la différence entre un REER puis un CELI. Puis là, il me dit, ben oui, je le sais, mais tu sais, ça a fait du bien un refresh. Là, j'étais comme, oh my God. Tu sais, c'est mon chum, puis je l'adore, puis je voulais pas rentrer dans le jugement, mais j'étais comme, OK, à quel point on n'est pas éduqué. Puis je pense que c'est. En ce que je trouve une chose positive d'être entrepreneur, c'est qu'on n'a pas le choix. Ben, même personnellement, tu n'as pas le choix, mais ça, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas le choix quand même là, d'être à l'aise avec tes chiffres, de tracker tes affaires,
Ben
tes
oui, c'est la
taxes.
base de ton entreprise, là. Tes revenus, c'est la base de ton entreprise.
Exact, exact. Fait qu'on dirait, en tout cas, personnellement, être entrepreneur, ça m'a comme poussé à encore plus m'informer sur les finances personnelles. Tu sais, c'est vrai, mettons, je me mets dans place à aller qui est salarié, qui a la même paye à chaque 2 semaines, qui fait sa petite vie bien tranquille. Pas savoir la différence entre un REER et un CELI, c'est sûr que ça a des avantages sur plusieurs points, mais comme il peut faire sa vie quand même, là, tu comprends? Versus
OK,
entrepreneur, je trouve
oui.
que c'est vraiment, tu laisses l'argent à sa table. Tout ça pour dire Comment c'est venu sur ton chemin? Tu t'es dit, OK, moi, je vais travailler dans les chiffres. Tu sais, je te vois comme une personne super créative, super. Tu sais, souvent, le monde de la finance, on pense que c'est des gens plus. Comment dire? Introvertis, je dirais, je sais pas.
Ouais, ben oui, ouais.
Comment c'est arrivé sur ton chemin que tu t'es dit, OK, je vais aider les gens avec leur argent?
Ouais, ben c'est un peu tombé par hasard, je dirais. T'sais, moi, j'ai étudié en administration des affaires, puis je t'ai parlé au début de l'épisode que moi, le parcours scolaire, ça a été quand même tumultueux. C'était pas facile, j'ai vraiment pas trippé à l'école. Ça a pas été un long fleuve tranquille, comme on dit. Puis à la fin de mon DEC en administration des affaires, c'était aucunement question que je poursuive à l'université temps plein. Évidemment, j'avais quand même les ambitions de vouloir poursuivre à l'université, mais je me suis dit aucune chance que je poursuive temps plein. Fait que je me suis dit, je vais postuler. Fait que t'sais, quand tu étudies en admin, plutôt, t'as plusieurs champs devant toi, là, que ce soit management, ressources humaines, finances et comptabilité. Fait que je me suis dit, OK, je vais juste me lancer. Puis moi, j'avais toujours dans le petit rêve de petite fille de vouloir travailler en veston et en belle jupe et en talons hauts. Fait que j'ai comment, où est-ce que je pourrais aller travailler va me permettre d'être bien habillée? Puis j'ai commencé à travailler dans une caisse de jardin, tout simplement. C'est de même que ça a commencé. J'étais à l'accueil au début, j'étais comme la petite réceptionniste. Puis de fil en aiguille, j'ai monté conseillère quelques mois après mon entrée. Puis, entre-temps, il y a eu aussi l'achat de ma première maison qui a vraiment fait en sorte que j'ai voulu continuer dans le domaine parce que j'ai eu tellement de la misère à acheter ma première maison. Je peux résumer ça très facilement comme ça. J'ai fait chier beaucoup de personnes en achetant ma maison. Comme j'ai vu mille un professionnels, puis tu veux pas, j'étais jeune, j'avais 21 ans, ben 20 ans quand j'étais dans les démarches de ma première maison. J'avais trouvé la maison que je voulais, puis on m'avait dit oui une fois pour me dire que ça marcherait pour ma maison. Finalement, ça marchait plus. Puis là, je me suis dit non, c'est pas parce qu'on m'a dit oui une fois que ça marche plus. Fait qu'en tout cas, j'ai fait vraiment chier beaucoup de monde, mais c'était vraiment mon manque de connaissances qui a fait en sorte que ça a été si difficile, que je me suis pas tournée vers les bonnes personnes, que c'est ça allait vraiment niaiser, carrément, là, ça a été vraiment difficile. Puis si c'était pas de ma détermination, c'est sûr que j'aurais jamais eu ma maison. Puis aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir cette détermination-là parce que honnêtement,
C'est
ça a
clair.
changé le cours de ma vie au complet, puis tout ce que j'ai pu faire dans mes prochains projets. Fait que bref, ça m'a vraiment tenté de continuer ce parcours-là en finance, parce que je me suis dit, c'est pas vrai que les gens méritent de vivre l'achat d'une première maison comme ça. C'est censé être beau, c'est censé être joyeux, c'est censé être merveilleux. Littéralement, quand je suis sortie du notaire avec mes clés dans les mains, j'étais juste découragée, tannée, écœurée. J'étais même pas heureuse, littéralement, là, même pas heureuse. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que les gens méritent de vivre l'achat d'une première maison comme ça. Fait que je me suis dit, moi, je vais poursuivre, puis crime, je vais essayer de faire la différence. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai monté conseillère à la caisse. Fait que j'ai fait ça quelques années. Puis bon, c'est ça, est venu mes congés de maternité, puis le désir de ne pas retourner à mon compte finalement. Fait qu'après ça, j'ai tourné vers retourner salarié, pardon. Fait qu'après ça, j'ai débuté à mon compte, puis maintenant dans ma propre entreprise.
Puis je suis heureuse de savoir si à ton compte. Comment dire? Parce que de mémoire, là, c'est flou, mais il me semble qu'on avait déjà eu un talk ou peut-être une story si tu avais dit que tu n'étais pas nécessairement la fille la plus passionnée des finances, mais que c'était important pour toi d'éduquer les gens. Je ne sais plus trop. C'est peut-être même dans
Ouais.
ton outil budget, by the way. Em a un outil budget extraordinaire que je vais mettre dans les notes de l'épisode. Qui est super utile, que j'utilise moi-même. Explique-nous donc ce côté-là, parce que souvent, on pense que les gens font leur passion, mais c'est quoi ton optique par rapport à ça?
Ouais, ben pour vrai, c'est fou l'intéressant que tu me poses la question parce que je suis vraiment pas une passionnée de finance. Puis on pourrait penser que, tu sais, tous les gens qui travaillent avec les chiffres, ben, qui travaillent en finance, c'est des passionnés de chiffres et tout, comme vraiment pas. Moi, ce qui m'allume des finances, c'est ce que les finances me permettent de faire. Qu'est-ce que mon argent me permet de faire? Moi, c'est ça, tu sais, dans la vie, j'ai des grandes ambitions, mais je le sais que ça prend de l'argent. Fait que comment je peux avoir de l'argent pour réaliser mes projets, mes ambitions? Mais crime, c'est de savoir comment la gérer. Fait que c'est pour ça que je suis rendue que j'aime les finances parce que ça me permet de réaliser des choses, mais c'est pas l'argent en tant que tel que j'aime, c'est mes rêves que je réalise que j'aime le plus. Fait que pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Puis je sais que c'est comme ça pour tout le monde. Fait que ça n'a pas besoin d'être une passion, les finances, mais tu sais, je vous pose la question, c'est quoi vous voulez réaliser dans votre vie? C'est quoi vos rêves, vos projets? Il y a de fortes chances que dans 99% des réponses, ça prend de l'argent pour réaliser ce qu'on veut faire.
Ah, tellement. Puis je vais te poser la question, puis on peut avoir le talk sur ça. Je suis sûre qu'on pense pareil, mais l'argent fait-il le bonheur? Qu'est-ce que t'en penses de ça?
Ben, moi, je dis oui, 100% l'argent fait le bonheur, mais c'est d'apprendre à être heureux avec ce que tu as à la base aussi, puis après ça, d'espérer plus. Parce que, tu sais, évidemment, quand on rentre dans la roue de faire de l'argent puis de comprendre la game de l'argent, honnêtement, c'est sans fin. Puis, tu sais, une journée, tu vas être heureuse d'avoir 100 pièces dans ton compte de banque, ça va être la plus belle chose de ta vie. Le lendemain, ça va être 1000 pièces, le lendemain, ça va être 10 000, puis après ça, tu veux 100 000, puis 200 000. Fait que t'es pas plus heureux à chaque fois. À un moment donné, ton certain bonheur, il atteint un plafond. Mais assurément que ce que l'argent te permet de faire, ta liberté d'esprit, ta liberté de temps, ta liberté d'argent, ça n'a pas de prix, là. Honnêtement, ça équivaut le bonheur. Mais ce n'est pas l'argent en tant que tel parce que quelqu'un qui a 2 millions dans son compte et qui ne fait absolument rien, qui n'est pas en santé, qui n'a pas de famille, Mais je pense pas que cette personne-là est heureuse. Fait que c'est d'apprendre à aimer puis d'apprécier qu'est-ce qu'on a assurément. Mais je vais dire de même, fucking right, l'argent fait le bonheur.
Hey, j'aime ça, tu l'as tellement bien expliqué, on dirait. Puis je pense pareil pour vrai parce que l'argent peut apporter comme des souvenirs aussi, des opportunités, des expériences. Tu sais, comme là, hier, honnêtement, je me suis couchée tellement tard, ma fille, parce que je pars en voyage dans 2 semaines en pack-sac, puis là, je checkais les Airbnb, les hostels, toutes les options pas possibles. C'est un vrai casse-tête de où qu'on va, qu'est-ce qu'on paye, puis c'est de l'argent, là. Tu sais, je me dis, aïe, je suis donc bien chanceuse de pouvoir avoir le luxe de choisir. Si je prends une auberge jeunesse, un Airbnb, un dortoir, ou si je pars pas en voyage, ou si je pars en voyage, si je veux pas, comme tu dis, nos projets, nos rêves, souvent, ça requiert de l'argent, pas la santé, l'amour, etc. Mais je suis tellement, tellement d'accord avec toi. Puis, mon opinion peut-être un peu rough par rapport à ça, je pense que les gens qui sont comme, oh non, l'argent fait pas le bonheur, souvent, c'est des gens qui n'ont pas d'argent ou qui sont en manque de l'argent, tu sais,
Ouais,
qui ont peut-être pas
assurément.
vécu c'est quoi avoir de l'argent puis se permettre de pouvoir vivre des souvenirs, tu sais, il y a une différence entre avoir de l'argent juste pour acheter du matériel ou justement pour vivre des expériences aussi, là.
Ouais, 100%, 100%. Tout est une question d'argent aussi, là. Si tu espères t'acheter une nouvelle voiture puis que ça va faire ton bonheur, assurément que ça le fera pas. Peut-être temporairement, oui, mais ça, il y a un gros switch, je pense, à faire de mindset dans la société parce qu'on pense vraiment que le matériel va faire notre bonheur, mais sur le long terme, non.
C'est ça.
Absolument pas.
Exact.
Mais ça, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on voit les gens avec leur belle voiture, leur maison neuve, bien meublée, super bien habillée, le petit kit de sport à perfection. Mais sur le long terme, c'est pas ça qui fait le bonheur. Mais
Ah, tellement.
c'est
Ça veut
relatif à
rien dire de
chacun.
leur compte de banque, là. Tu sais, ça veut
Non.
absolument rien dire de
Ah, mon
comme.
Dieu.
Souvent, c'est même ça. En tout cas, surtout les personnes super, super jeunes qui ont full, qui shine de partout, je suis comme. There's something wrong
Ouais.
here. Tu sais, c'est soit les parents ou je ne sais quoi, mais toi, tu viens. Je sais pas si tu veux aller là, mais tu viens-tu d'une famille riche, classe moyenne, pauvre? Tu viens d'où?
Ouais, ben je te dirais que mes parents avaient quand même assez d'argent. C'était pas des riches, mais ouais, il y avait quand même beaucoup d'argent. Je pense que j'ai quand même une bonne éducation par rapport à l'argent, dans le sens que mes parents m'ont pas tout payé. Tu sais, moi, j'étais le genre de petite fille que ma mère réutilisait les affaires de mon frère, genre des souliers bruns,
Ouais.
comme en 6e année. Sérieux, man, t'es sérieux? Des souliers bruns de mon frère usagés avec comme des taches de gazon
Ça
dessus, comme.
pue.
C'est ça, exact. Mais comme tu sais, mes parents m'ont quand même appris, ils sont encore bons, tes Christy souliers, récupère-les. À chaque début d'année, ma mère, elle allait pas à l'imprimerie nous acheter des nouveaux cartables, des ci, des ça. Je réutilisais souvent le même coffre à crayons. Puis si mes cartables étaient encore bons, je les reprenais. Puis je me souviens que ça me dérangeait parce que moi, au secondaire, il faut dire que j'allais dans une école privée. Donc, évidemment, qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent et
Ouais.
tout le kit. Fait que moi, je me disais, écoute, tous mes amis vont avoir des beaux cartables de l'année, puis blablabla. Puis ça m'a souvent dérangé. Puis aujourd'hui, je comprends que comme ça ne m'a pas rendu plus malheureuse d'avoir les mêmes cartables que l'année d'avant. Puis je remercie vraiment mes parents de m'avoir inculqué ça. On a toujours parlé quand même d'argent, pas super ouvertement, mais ça a toujours été un sujet qu'on n'a pas, qui n'était pas tabou dans notre famille. Puis je suis vraiment contente parce que justement, je n'ai pas l'idée de me dire que l'argent, c'est ça qui est le plus important ou l'argent comme détermine ton futur ou peu importe, là. Fait que, ouais, non, j'ai pas. J'ai eu une bonne équilibre, je pense.
Y a-tu des choses, tu sais, une fois que maintenant toi-même t'es rendue maman, que tu veux absolument apprendre ou tu sais, faire faire à tes enfants au niveau de leurs finances?
Mais là, assurément que d'épargner dès notre jeune âge, on le sait tout que tout l'argent qu'on a, tu sais, gaspillé, là, je te dirais, gaspillé, c'est le bon mot, là, entre genre 10 et 20 ans, là, on en a eu de l'argent. De façon générale, on a tout des cadeaux, on a tout reçu un 50$ à Noël d'une carte
C'est
de
vrai.
notre grand-mère. Honnêtement, c'est bien correct, tu sais, je me suis gâtée, mais il y a des fois que j'aurais peut-être aimé que ma mère elle me dise, ben, Milly, regarde, on va faire 50-50, comme prends 25, mets-le dans ton compte de banque, puis l'autre 25, ben, tu peux le dépenser. Tu sais, moi, j'étais plus genre, ah, OK, je vais aller dépenser 50$, puis quand t'es jeune, je veux dire, tu vas au magasin, t'achèterais tout. Fait que c'est
Ben
sûr
oui,
que tu vas le
c'est mal.
dépenser, ton
C'est le
argent,
meilleur
là.
feeling, en fait. Tu te penses
Ben
riche.
oui. Oh, ouais, c'est merveilleux. Mais sur le coup, tu le sais même pas que ça a un impact sur le long terme, mais ça n'a juste pas de sens comment ça a réellement un impact sur le long terme. T'sais, on le sait, l'effet cumulé de chacune des petites actions. Ben, toutes les bonnes petites actions que tu vas prendre vont te remercier plus tard, puis toutes les mauvaises décisions aussi. T'sais, chaque dollar dépensé, ben, t'emmène encore plus loin tes objectifs financiers. Puis chaque dollar épargné aussi va te rapprocher. Mais les gens n'ont pas tendance à comprendre que 3-4 $, ça peut faire une différence. Ben oui, ça
Ah ouais.
peut faire une différence.
Tellement. Je me souviens, là, je pense que quand j'étais en secondaire 1, je passais le journal, qui est le Nouvelliste à Trois-Rivières, genre le journal de la région de la ville. Puis à chaque jeudi, j'allais faire la collecte chez les gens pour qu'ils payent le journal, le Nouvelliste. Puis en même temps, les gens me tipaient. Genre 2 piastres par semaine, on va dire. Puis avant, il n'y avait pas de paiement en ligne, là, dans ce temps-là. Fait que c'était vraiment seulement du cash. J'avais mon sac Ziploc. Je mettais l'argent. Puis à la fin de ma tournée, les jeudis soirs, Je mettais un côté tout ce qu'il y a au nouvelliste, puis tout mon type dans un sens à fucking 12 ans. Puis à chaque jeudi soir, qui était mon jour de paye, j'allais au Tic Géant, ma fille, dépenser pour genre, je sais plus, mais peut-être 50-60 $, qui était énorme aussi à cet
Ouais.
âge-là, en vêtements, en bijoux, en bonbons. J'étais genre Miss Stylée au secondaire aujourd'hui, check-moi si je porte les mêmes chandails chaque jour. Mais à quel point cet argent-là, c'était des cents, là, dans un sens, c'est des 1 $, 25 sous, 2 $. Hein, j'aurais tellement pu genre faire de quoi avec ça, puis mes parents, ben non, va te gâter. Puis c'est l'équilibre aussi, je pense, de se permettre, puis pas de devenir la personne gratteuse non plus. Tu veux pas, je pense, être cette personne-là. Tu veux te gâter de temps en temps. Mais en tout cas, c'est une brève anecdote. Toi, comment tu fais
Ouais.
pour équilibrer les deux de OK, je me gâte, tu sais, comme là, je vois ton décor. Okay, t'as des petits cadres, des plantes, c'est full beau, mais c'est des dépenses non essentielles. C'est dans quel moment dans ta vie que tu te dis OK, je me gâte ou OK, je me gâte pas?
Mais c'est une bonne question parce que je pense que c'est la question que tout le monde se pose. C'est premièrement, il y
Mmh.
a moyen de dépenser intelligemment comme n'importe quoi. Si tu regardes mon background en arrière, on pourrait penser que ça m'a pas coûté des centaines de dollars, alors que non. C'est absolument pas, mais je l'ai magasiné mon petit background parce que je sais que c'est pas une dépense utile. Comme oui, ça montre mon professionnalisme, c'est important pour moi quand je fais des rencontres, mais c'est vraiment la plus grande des questions, je pense, avec toutes mes clientes. C'est parce que le problème que je te dirais, puis j'ai déjà donné cet exemple-là, c'est qu'aujourd'hui, on se gâte un peu trop partout. Le partout est très important, c'est qu'on s'en rend même plus compte de qu'est-ce qui nous fait réellement plaisir, qu'est-ce qui est un petit luxe pour nous. Puis il y a une grande, grande, grande distinction à comprendre, que c'est pas parce que tu as l'argent qu'il faut que tu la dépenses. C'est pas parce que tu te retiens d'acheter un chandail que tu n'as pas d'argent, c'est parce que tu fais des choix qui sont conscients, tout simplement. Puis ça, les gens ont de la misère à comprendre. Ils ont de la misère à se dire, hey, si j'ai pas le char de l'année, les gens vont peut-être penser que j'ai pas l'argent. On s'en fout, là. Comme ça, c'est tes choix à toi. Puis comme qui dans 20 ans va comme rouler dans sa crise de Porsche l'année, comme on s'en reparlera rendu là, mais. Premièrement, ça, c'est le plus difficile, je te dirais. Mais c'est ça, de vraiment dépenser consciemment, d'apprécier dans quoi qu'on dépense. Si je donne toujours l'exemple, puis ça, c'est vraiment pas pour viser personne ou pour être méchante, mais c'est l'exemple parfait. Exemple, une fille qui va chez la coiffeuse à chaque mois, qui se fait faire les cils, qui se fait faire les ongles, un petit facial, qui fait des commandes sur Zara, puis tout ça. Tu sais, ça, c'est tous des petits plaisirs de la vie, là,
J'aime
on
ça.
s'entend, là. Mais. C'est pas négatif ce que je dis, absolument pas. C'est juste des fois d'être conscient. Ça, c'est tout des petits luxes dans la vie. Mais si tu le fais constamment, quotidiennement, tu t'en rends même plus compte que pour toi, c'est un luxe puis c'est censé être un plaisir. Tu sais, au moment où tu as commencé à acheter sur le site de Zara un petit morceau, tu étais full excité. Aujourd'hui, tu le fais puis t'es sans émotion face à ça parce que c'est juste rendu une routine pour toi d'acheter. Ben, d'être capable de prendre un pas de recul puis de dire qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, réellement. Parce que si tu te gardes partout, tout le temps, t'as même plus la notion de hey, ça, c'est mon petit luxe. Regarde, moi, mes cils, là, le jeudi soir avec la fille qui fait mes cils, on a toujours bien du fun. C'est mon luxe à moi, j'aime ça me fait du bien. Ben, good, tant mieux. Ça, on appelle ça l'équilibre. Mais si tu te gardes tout le temps, partout, il est où ton plaisir? Il est où sincèrement ton plaisir? Ça, c'est difficile parce qu'on est trop habitué. Puis ça m'emmène à un autre point qui est super important, ce qui est notre standard de vie. Ça va devenir ton standard de vie. Si toi, dépenses, exemple, 200 $ par semaine dans tes soins esthétiques, c'est rendu ton standard, ben ça va ne que cesser d'augmenter, constamment. Toujours, toujours augmenter. À un moment donné, ça va être 250, à un moment donné, ça va être 300, et de redescendre dans un rythme de vie qui est plus normal, de se dire, hey, ça n'a pas de sens là, que je dépense 300 $ dans mes cheveux, mes ongles, mes ci, mes ça. Regarde, je vais juste faire mes cils une fois ou 2 semaines, par exemple, puis ça va me coûter 100 $ par semaine, par exemple. Je connais pas ça, là, mais c'est juste vraiment pour dire, ça va devenir ton standard de vie, puis c'est dur de redescendre par après, surtout quand on voit les gens sur les réseaux sociaux, eux qui se payent tout ça, puis que ça a donc l'air d'être merveilleux, mais on connaît pas le compte bancaire de tout le monde. Mais bon, bref, vraiment d'ajuster ses standards de vie à son compte de banque, premièrement, c'est la première option, puis si tu te mets à toi-même, puis tu vis au-delà de tes moyens, ben ça, je veux dire, ça, c'est la plus grosse des erreurs. Fait que c'est d'être capable de se parler les yeux dans les yeux, puis de dire, qu'est-ce que je peux réellement me payer? Qu'est-ce qui fait du sens? Est-ce que je prends le temps d'épargner? Est-ce que mes dettes sont à jour? Parce que c'est pas grave d'en avoir, c'est juste de les gérer. Par après, qu'est-ce que je peux me permettre? Qu'est-ce qui est un luxe pour moi? Qu'est-ce qui me fait réellement plaisir? Ben, si c'est ça, go for it, girl. Mais tu peux pas te gâter partout. Ça, je pense, c'est mon point le plus important.
Tellement. Non, j'adore. Puis un point peut-être un peu sensible, mais parfait, je pense, pour celles qui nous écoutent. En couple, exemple, toi qui es pro des finances, puis là, exemple, ton conjoint, conjointe, n'importe quoi, dépense trop, justement, a trop de luxe selon toi, là, selon ton standard de vie, ton lifestyle que tu désires, lui, il est comme x10, mais il devrait peut-être pas. Comment jongler avec ça? Comme comment avoir la conversation de, tu sais, ça dépend vraiment des couples qui ont des comptes partagés ou pas, mais qu'est-ce que tu aurais à dire à celles qui nous écoutent, puis ça va peut-être, OK, mais moi, c'est mon chum qui prend tout mon argent.
Bien, ça, c'est un gros problème parce que la gestion en couple, honnêtement, c'est pas évident. Tout le monde le gère différemment. Pour ma part, c'est un conseil que je peux toujours donner. L'argent est sans émotion, puis devrait être géré sans émotion. Fait que c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es infiniment en amour avec ton chum que vous devez absolument avoir un compte conjoint. Si vous avez une maison ensemble, par exemple, tout ça, vous n'avez pas le choix, c'est bien correct. Mais avant d'en venir là, il y a des gens qui se disent, ben non, ça va bien, on va déposer nos paies dans le même compte. Mais après ça, une fois que comme l'amour ou la passion descend un peu, tu es un peu pris là-dedans. Puis des fois, dans des chicanes, ben, c'est là que l'émotion rentre, puis que tu associes une émotion à l'argent. Mais en tant que tel, ton argent est neutre. Fait que si elle est gérée de façon neutre, prenez des décisions neutres, c'est pas les hauts et les bas de votre couple qui va affecter votre argent. Fait que ça, c'est un point quand même important à comprendre. Fait que idéalement, moi, je conseille toujours, vous avez chacun votre compte, vos payes devraient toujours être déposées chacun dans votre compte. Ça, c'est très personnel à moi. On s'entend qu'il y a des couples qui ont vraiment des revenus exorbitants, puis la maman, par exemple, travaille un peu moins et s'occupe des enfants, fait
Ouais.
vraiment un revenu qui est différent. Ce rendu-là, c'est de s'assurer, puis d'être, hey, tu peux-tu me virer tel montant dans mon compte par semaine parce que toi, tu fais crime 6 fois mon salaire, mettons. Ça, c'est vraiment une gestion, mais personnellement, les gestions des finances personnelles, ça reste personnel. Gestion des finances personnelles. Fait que vous devriez littéralement avoir chacun votre compte, puis pas mélanger les choses. Je pense que c'est la chose la plus simple parce qu'après ça, ben, c'est facile de revenir en arrière puis de dire, ben oui, mais là, regarde, t'as pris tel argent dans le compte
Ah ouais.
conjoint, puis c'était quoi, puis là, t'es. Fait que ça, c'est trop difficile à gérer. Fait que du temps qu'il n'y a pas de chicane ou peu importe, moi, je dis que même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, vous devriez avoir chacun votre compte, puis les dépenses communes, oui, c'est assurément un compte conjoint, c'est beaucoup plus simple. Dépenses communes dans le compte conjoint, vos dépenses, chacun dans votre compte, selon moi, c'est la meilleure des options.
Y a-t-il un exemple concret de la vie que tu as vécu comme challenge avec ton conjoint, soit avant d'avoir des enfants, ou peut-être que ça a changé ou eu des apporté des conversations depuis que vous avez eu des enfants ensemble?
Ben oui, c'est sûr et certain parce que tu sais, la vision de l'argent, mon chum puis moi, malgré que je travaille en finance, est pas du tout pareil. C'est sûr que j'ai inculqué des belles choses, mais à la base, moi, quand j'ai commencé à être avec mon chum, lui, épargné, il savait même pas ce que ça voulait dire, là, littéralement. Fait que c'est correct, tu sais, je l'ai aidé là-dedans à prendre ce chemin-là. Sauf que reste pour lui, aujourd'hui, c'est pas une priorité. Aujourd'hui, pour lui, d'avoir une belle voiture, etc., c'est important. Puis c'est bien correct parce qu'il peut se le permettre. Fait que c'est correct parce que si tu peux pas te le permettre, bon, c'est autre chose, là. Mais on s'entend qu'il y a peut-être moins la conscience, justement, de vouloir épargner. Il est un petit peu plus dans le moment présent. Puis c'est bien correct. Puis mon but, c'est pas de dire non, non, on passe à ton futur. Il pense à son futur, mais il est peut-être un 60-40, là, au lieu d'être un
Ouais.
50-50, mettons. Mais ouais, c'est sûr, évidemment, quand on a eu des enfants, c'était des bonnes discussions parce qu'au début, ben. Moi, je voulais, t'sais, acheter des vêtements à ma fille ou des choses comme ça, puis que lui, il s'en foutait un peu. Fait que là, moi, je payais plus, sauf que moi, j'avais beaucoup moins d'argent parce que j'étais en congé de maternité. Fait que t'sais, on a comme tombé dans
Ouais.
une petite roue de dire, OK, moi, mais là, je peux pas tout payer. Mais fait que t'sais, c'est comme de revenir sur terre un peu, de dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Puis je pense que mon gros switch, t'sais, j'ai jamais été quelqu'un qui dépensait beaucoup ou qui abusait dans les dépenses, mais j'ai vraiment compris que. T'sais, mon enfant sera pas plus heureux parce qu'il y a y a le linge, t'sais, full à la mode, tout ça. Fait que je
Ouais.
me suis vraiment calmée pendant mon congé de maternité. Comme je dis pas que je dépensais à plus finir, mais j'ai vraiment appris que comme c'est tellement passager, nous, il va vomir dessus puis il va être taché. Fait que comme rendu là, à quoi
Ouais,
bon, là?
c'est ça. Ben tellement, ou juste moi, si ça me fait penser, puis on s'entend, je suis pas encore môme, puis ça peut changer, mais ça va peut-être être surprise, mais moi, tout ce qui est genre décorer la chambre du bébé, là, je suis tellement pas là-dedans, là, je suis comme, genre, moi, ça va être une pièce blanche, là. Genre, j'exagère, là, mais peinturer, acheter plein de décorations, ça s'en souviendra même pas plus tard, tu sais, je me souviens pas c'était quoi, là, moi, ma chambre de bébé, je me souviens pas de ma chambre avant d'avoir peut-être eu, quoi, 10 ans, là, que je me souviens, mais toutes ces niaiseries-là, selon moi, ou justement les vêtements de Max, je suis comme, aïe, aïe, mais tu sais, quand on est dedans, qu'on s'en rend pas compte non plus, c'est tough de. Ou comme tu dis, on prend l'habitude d'acheter de la marque à notre enfant. Puis là, je sais pas, notre enfant est rendu à 6 ans, on a moins le budget, c'est tough pour revenir en arrière sur le.
Ouais, vraiment, vraiment. Puis tu sais, c'est ça, ton enfant aussi s'habitue un peu ce confort de vie-là. Puis ça revient
Aussi.
toujours à l'équilibre. Tu sais, si tu peux te le permettre, c'est bien correct. Puis ça va être assez cru que je vais dire, mais moi, quand je vois des mères habiller leur enfant en quart de mode, mais qu'ils sont pas foutus d'ouvrir un régime d'études pour leur enfant, ça me décourage.
Oh my
Ton
God, c'est
régime
vrai.
d'études, il n'est pas obligé, là, de, tu sais, tu peux mettre exemple un 2500 par année dedans pour aller chercher le maximum de subventions. C'est pas grave si t'as pas le 2500. Mais de savoir que tu as mis 100 $ dans une belle petite robe cute qui va t'offrir peut-être 6 mois puis que t'as 0 $ dans le régime d'études, je peux pas comprendre. Mais
Oh
ça,
my God.
je peux pas en vouloir à personne parce que c'est parfois, tu sais, un manque d'éducation. Tu le sais juste pas puis c'est bien correct. Mais je pense que ça fait quand même partie de notre rôle parent de se renseigner puis de se dire vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on veut inculquer à notre enfant? C'est là que, tu sais, l'avenir de notre enfant est entre nos mains puis c'est aujourd'hui que ça commence. Fait comme les belles robes, vas-tu permettre à mon enfant un bel avenir ou le régime d'études? Si tu peux faire les deux, comme go for it, girl, c'est vraiment
Ouais.
fun, mais c'est peut-être pas la réalité de tout le monde. Puis quand je vois des choses comme ça me décourage un peu. Fait qu'encore là, c'est pas négatif. Si ça vous arrive, vous
Bon.
n'avez pas de régime d'études pour vos enfants, virez pas fou. Premièrement, il est jamais trop tard, mais c'est
Prenez
juste, c'est
action, là, quand même, là, on
ben
prendra
c'est
pas ça à
ça, c'est
légère.
hyper important, c'est hyper important, mais c'est ça. Des fois, c'est vraiment le manque de connaissances, la crainte un peu de pas savoir comment, pas savoir pourquoi. Fait que j'en veux pas à personne quand tu le sais pas. Tu sais, moi, ça arrive mille et une fois, là, des clients qui arrivent dans mon univers qui en ont pas, c'est bien correct, mais par après, ils comprennent l'importance, puis ça fait un gros switch de mindset de dire, OK, non, finalement, un crime, tant qu'à payer 100 pièces de bébelle encore pour sa fête, ben, je vais mettre 100 pièces dans son compte étude, puis t'es fier de le faire. Au début, t'es comme, ah, oh, c'est plate, j'aurais préféré la belle petite robe, mais plus tu le fais, plus tu t'habitues, plus tes objectifs financiers, tu comprends que tu t'investis vraiment dans l'avenir de ton enfant, puis après ça, c'est même pas un no-brainer, c'est juste, tu le fais naturellement, puis t'es content de le faire.
Ça, il va s'en souvenir plus tard versus la robe ou la paire de souliers que tu as acheté à un
Ouais,
an, s'entend?
exactement. Ouais, mais tu sais, il faut dire qu'il y a une
Chira, c'est
grosse
savoir?
pression. Oh, excuse. Faut
Ben
dire
non,
aussi qu'il y a une
vas-y, vas-y.
grosse pression aussi avec les réseaux sociaux. Tu sais, veux pas les
Ah ouais.
mères qui font des hauls, puis des. J'ai regardé ce que j'ai acheté pour mon enfant, puis qu'il y en a beaucoup que, tu sais, les influenceurs, les mômes influenceurs qui se font donner des choses. Ben, eux, ils n'ont pas payé pour, mais nous, ils nous incitent à les acheter. Fait que les gens qui, comme, sont influencés à les acheter, ils payent de leur poche. Fait que on tombe comme dans un cercle vicieux de se dire, crème, faut que j'achète tout le linge à la perfection aussi, ça. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux nous font quand même concevoir des rythmes de vie qui sont inconcevables, littéralement, mais c'est difficile de se
Vraiment.
détacher.
C'est ça, en tant que môme, tu t'es-tu désabonné de tous ces comptes-là? C'est quoi ta consommation, si on veut, envers les autres mômes?
Ouais, ben pas désabonné, mais c'est sûr et certain que je regarde beaucoup moins, là, je veux pas maintenant avec Instagram, qui est plus un travail pour moi, je suis moins consommatrice que ce que j'utilise actuellement, mais oui, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, je trouvais que ça avait juste pas de bon sens, t'as envie de tout acheter, puis les petites bébelles, puis les ci, puis les ça, puis ça finit plus de finir, là. Littéralement, ça finit plus de finir, fait que c'est juste de faire des choix conscients qui vont respecter le budget, puis
Ouais.
je pense que c'est plus important.
Puis la question que j'avais pour toi, c'est, tu sais, les amis autour de toi qui ont des enfants, par exemple, puis que tu te. C'est sûr que tu vois pas leur compte de banque, mais peut-être que tu te rends compte que, bon, ils exagèrent ou quoi que ce soit, puis intérieurement, pas que tu les juges, mais bon, tu aurais comme 1 million de conseils à leur donner. Et où la ligne, tu sais? T'as-tu les torts avec elle? Tu gardes tout pour toi? Ça ressemble à quoi?
Oh mon Dieu, hey, bonne question. Pour vrai, les proches autour de moi, j'aborde pas vraiment ces sujets-là. Pour vrai, si les gens proches de moi ont des questions par rapport à leur argent ou sont prêts à s'ouvrir, comme c'est bien correct, mais moi, je devancerai jamais les choses parce que, honnêtement, je suis qui, moi, pour juger, justement, parce que je connais pas le compte bancaire de personne. Fait que, non, pour vrai, je m'avancerai jamais pour dire, hey, tu devrais peut-être faire ça de même, peut-être faire ça de même, juste parce que je veux pas froisser personne. Puis, tu sais, c'est mes amis, puis je suis pas amie avec eux pour leur compte de banque, je suis amie avec eux parce que je les aime en tant que personne, là. Fait que, ce qu'ils font comme décision avec leur argent, c'est sûr que d'un point de vue externe de Émilie, la fille des finances, des fois, je peux faire comme, wow, ça fait pas de sens. Mais d'un autre côté, c'est ça, je suis pas amie avec eux pour cette raison-là. Fait que, bonne question, non, je n'aborde pas le sujet avec eux. Peut-être je devrais, je sais pas, là.
Ben non, tu y vas comme tu sens, mais elle, est-ce qu'elle t'approche pour ça? Est-ce qu'elle utilise, si on veut, tes connaissances pour en savoir plus ou elle aussi comme bon pas là, si on veut?
Ben, je te dirais que mes amis les plus proches, on jase pas vraiment de ça, mais je suis quand même surprise de savoir qu'il y a certaines personnes qui m'écrivent. C'est moi, je viens d'une petite région, puis tout le monde se connaît, puis je suis quand même surprise du nombre de messages que je peux recevoir des gens qui me posent des questions très personnelles sur leur situation financière, qui s'ouvrent carrément, puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, je veux dire, je te connais très, très bien, là, comme pas personnellement, mais tu sais, c'est des gens de notre coin, je connais ta mère, je connais ton père, comme c'est surprenant comment les gens ont quand même une belle confiance, puis je l'apprécie parce que pour moi, tu sais, c'est belle marque de confiance, puis la confidentialité, c'est super important, mais reste que tu sais, dans la région, ça serait facile de juger. Clairement, si la personne s'ouvre à moi, c'est parce que je dégage pas le profil d'une fille qui juge, là, absolument pas. Tu sais, je veux dire, j'en ai vu mille et une situations financières, là, puis ça, je dis toujours ça à mes clientes, comme t'es peut-être gênée, mais je peux te garantir que j'ai vu pire.
Ouais, c'est ça, c'est sûr qu'il y a pire. Ben, dans
Littéralement.
n'importe quoi, hein, je pense qu'il y a
Ah
pire,
ouais.
il y a mieux. C'est juste de comme pas se comparer. Puis, tu sais, des fois, on pense que nos amis sont mieux que nous, dans le fond, mais on le sait pas, là. T'sais, encore une fois,
Non.
on voit pas leur compte de banque ou t'sais, nos parents ou quoi que ce soit. Ou t'sais, je trouve aussi l'aspect de comment on a été éduqués, les parents, ça l'apporte tellement de comme croyances, opinions, ce qu'on a par rapport aux autres. T'sais, le nombre de fois que mon père disait « j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent », puis j'étais comme « dans le fond, il y a full d'argent, là ». T'sais, je veux dire, je vois pas son compte de banque, mais c'est fou comment ça rentre dans la tête de « ah, ok, mon père a pas d'argent, plus ma mère, qui a le même salaire que mon père », est comme « ben non, ton père, il est bien correct, il est loin, inquiète-toi pas », je suis comme « ok, mais… » Tu sais, c'est stressant aussi en tant qu'enfant, peu importe notre âge, d'entendre nos parents dire des affaires par rapport à l'argent plus négatives, puis après se faire une bonne idée de l'argent, puis se dire, OK, il faut que ça. C'est censé être sexy puis beau l'argent, mais toute ma vie, j'ai entendu dire que whatever, quoi, on n'a pas d'argent, c'est quand même. Ça part de l'enfance, je pense. De là, l'importance en tant que parent, tu sais, de jeune parent, de prendre conscience de l'argent puis de se poser la question comment qu'on veut éduquer nos enfants aussi par rapport à ce sujet-là. Là. Tu sais, je pense que les parents qui nous écoutent, c'est de ne pas prendre pour acquis que oh, mon enfant s'en rappellera pas plus tard. Ben non, ils vont sûrement s'en rappeler ou le ressentir. C'était quoi votre relation avec l'argent que vous aviez, là?
100%, 100%. Puis, tu sais, c'est important aussi de comprendre qu'il n'y a pas, tu sais, il n'y a aucun âge qui est associé à une situation financière, dans le sens, pas parce
Ouais.
que tu as 25 ans que tu devrais avoir X montant dans ton compte de banque et être propriétaire d'une maison, et absolument pas. Puis ça, les gens, ils ont beaucoup de difficultés à le comprendre. Puis justement, de là peut partir beaucoup de comparaisons. Il n'y a personne qui a eu la même éducation financière, aide financière dans sa vie. Il y a des gens qui ont reçu des héritages. Il y en a que leurs parents, il y avait beaucoup d'argent, qui leur ont un peu donné tout cru dans le bec. Il y en a qui ont payé toutes leurs études. Je veux dire, tu peux pas comparer personne. Tu sais, si je veux dire, je peux pas me comparer moi, par exemple, qui a parti chez moi à 17 ans pour mes études, qui a payé relativement toutes mes études. Mes parents m'ont toujours quand même aidé un peu, mais
Ouais.
presque comme 80% de mes études, c'est moi qui les ai payées, que je suis partie tôt de la maison, versus quelqu'un, par exemple, qui faisait ses études en habitant chez ses parents, parce que moi, j'habite en campagne. Fait que j'ai pas eu le choix de déménager, mais il y a des gens, le trois quarts de ma
Ouais.
classe habitait chez leurs parents, puis c'est bien correct. C'est juste, je m'attends pas à avoir la même situation financière qu'eux. C'est bien normal, sauf que rendu là, tout est une question de choix. Puis honnêtement, je sais que quand j'étais à l'école, j'avais une super bonne situation financière, peut-être bien meilleure que des gens qui avaient aucune dépense. Mais ça, quand
Ouais.
tu n'as pas nécessairement accès à la valeur de l'argent tôt dans ta vie, mais c'est plus difficile à développer. C'est pas impossible à faire, mais c'est un gros travail.
Ouais, tellement. Ben oui, c'est sûr. Tu as acheté ta maison à 21 ans. Fait que
Ouais.
c'est certain que, tu sais, c'est ça. Puis je pense que c'est pas d'être dans le regret non plus du passé. C'est comme, OK, c'est vaut mieux tard que jamais. Je pense dans le monde des finances, vaut mieux l'apprendre un jour ou l'autre que. Mais tu sais, je pense que c'est quand même. Tu sais, on est dans une société qu'on parle pas vraiment d'argent à l'école, blablabla, mais de prendre la responsabilité, justement, de s'informer ou d'engager une personne comme toi, justement, pour les éclairer puis les supporter. Toi, c'est quel genre de personne qui vient de voir tous les âges, employés, entrepreneurs?
Ben, moi, je travaille surtout avec des femmes. Puis, c'est généralement, je te dirais, entre 25 et 40 ans. Il n'y a pas
OK.
d'âge. Comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas d'âge. Ma plus vieille cliente a 58 ans. Comme quoi, qu'il n'y a
OK.
vraiment pas d'âge pour se reprendre en main. C'est drôle que tu me poses la question parce que je vais quand même prendre le temps de le mentionner. À la base, quand j'ai voulu vraiment, tu sais, lancer mes services, je pensais vraiment plus d'une clientèle entre, disons, 18 et 22, 23 ans. Moi, j'étais convaincue, là, qu'il y allait avoir un besoin, puis que c'était full pertinent, puis que les gens en haut de 23, 24 ans comprenaient leur argent. Puis j'ai comme vraiment eu une claque d'en face. Et moi, je travaillais dans le domaine. Fait que moi, c'était acquis pour moi, ces connaissances-là, depuis l'âge de, tu sais, 22, 23 ans. Mais ça m'a fessé de me dire, OK, c'est pas parce que la personne elle a 30 ans qu'elle comprend, tu sais, justement, la différence, pour ne pas viser ton chum, la
Ouais.
différence entre un REER puis un CELI, tu sais, ça. Moi, je prenais
Revenez pas.
vraiment pour acquis le pauvre. On rit pas de lui. On ne rit pas de lui, là, okay. Mais
Il
vraiment, il y a
m'écoute
quand
pas.
même. C'est bon, ça. Mais tu sais, reste qu'il y a quand même un gros chemin à faire là-dessus. Puis. Ouais, c'est vraiment, c'est ça. Fait qu'au début, c'est la clientèle que je visais, puis je me suis dit, non, finalement, les gens ont vraiment besoin de mon aide, un petit peu plus vieux que ça. Fait que je travaille vraiment, c'est ça, avec des femmes entre 25 et 40 ans, de façon générale, puis de quelle façon je les aide, c'est vraiment en comprenant les finances, en mettant une structure, en étant plus organisée, en ayant une bonne façon de penser aussi face à l'argent. Je veux pas, c'est super important, on en parle tout le temps du money mindset, mais reste que c'est important, tu sais, ça donne quoi? Je te donne plein de connaissances, plein de valeurs sur tes finances, si t'as pas la bonne pensée face à ton argent. T'sais, tout est une question de façon de penser. Fait que oui, c'est ce que je fais. Puis c'est important de mentionner aussi, là, c'est pas pour me faire un petit pitch de vente, mais je suis pas conseillère, fait que je vends pas rien. Moi, ce que je vends, c'est ton succès, c'est ton bonheur, c'est ta compréhension de l'argent. Je mets 100% là-dessus, j'ai rien à te vendre, j'ai pas de REER, j'ai pas de CELI à te vendre, j'ai pas de produits financiers, j'ai pas d'assurance. Je fais simplement te guider, te prendre par la main, puis te montrer de quelle façon tu peux réaliser tout ce que tu as dans ta vie. C'est quoi tes rêves, c'est quoi tes projets? Moi, mon accompagnement, elle est 100% misée là-dessus. C'est ce que je demande d'entrée de jeu. C'est quoi tu veux réaliser dans ta vie, là, que tu penses peut-être inatteignable, puis je mets 100% mon accompagnement là-dessus. Ça me donne rien que tu me dises les détails de ta situation financière. Évidemment, je les demande parce qu'il faut que mes conseils soient guidés, mais je mise
Ouais.
pas là-dessus sur ta situation financière, je mise sur qu'est-ce que tu veux dans ta vie, c'est
Futur.
quoi tes rêves, c'est quoi tes projets. C'est 100% vers ça que c'est guidé mon accompagnement.
Ça ressemble à quoi? Tu sais, comme combien de rencontres? La personne, c'est ça, c'est full confidentiel, mais c'est-tu émotionnel comme rencontre? C'est plus noir ou blanc? C'est quoi le vibe, si on veut, de ces rencontres-là?
Ben honnêtement, moi, je fais ça toujours dans le plaisir. Tu sais, comme tu sais, je suis un
Ouais.
peu boblie dans la vie. Comme je l'ai toujours dit, pour moi, les finances, ça n'a pas besoin d'être si compliqué. Et de ce fait, ça n'a pas besoin d'être si sérieux. On a vraiment tendance à. Tu sais, souvent, on envoie beaucoup des conseillers, conseillères qui mettent un peu les finances comme étant inatteignables. Puis moi, quand je vois ça, ça me donne envie de vomir littéralement. C'est comme si ils veulent nous faire comprendre qu'ils ont absolument besoin d'eux pour réussir. Mais comme moi, une fois que
Ouais.
tu es passé dans mon univers, tu as compris la base de t'es all good, girl. Comme t'es all good. Puis pour vrai, les gens qui réussissent financièrement, il y en a des gens qui connaissent beaucoup de choses, qui réussissent très bien, mais il y en a qui connaissent très peu de choses et qui réussissent très bien. C'est à leur avantage de ne pas trop connaître de choses. Je m'explique. Exemple en investissement. Tu peux avoir peur, exemple, d'investir en bourse, puis déjà perdre mon argent, puis si c'est ça, même si tu as compris la base, puis tu sais que si tu mets telle stratégie en place, dans, exemple, 30 ans, tu vas avoir 1 million dans ton compte de banque, bien, tu le fais, puis tu capotes pas avec ça. Tandis que quand tu suis trop, exemple, la bourse à tous les jours, tu es comme, oh mon Dieu, je vais perdre mon argent, si c'est ça, moi, je leur dis, c'est correct. Maintenant, tu as compris le principe, la stratégie est claire, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Bon, ben parfait. Mais commence à mettre de l'argent de côté, puis check-le juste dans 30 ans, on s'en fout. Tu n'as même pas besoin de le suivre, ton compte de
Non,
banque, là.
c'est
Tu fais
ça.
juste le laisser grandir. Fait, des fois, les gens qui s'y connaissent trop, ils veulent trop s'investir, trop tout comprendre, ils ont trop peur de perdre une scène, mais. T'sais, dans un parcours de finances puis d'épargne, d'investissement, tu vas en perdre de l'argent. Fait que ça donne rien que tu capotes à tous les jours. Fais juste faire confiance au processus. Puis je pense que c'est un point le plus important. Des fois, moins que t'en sais, le mieux que c'est pour toi. Au contraire de ce qu'on peut
Ouais.
penser. Fait
C'est
que je le
bon
dis
ça, puis d'être
toujours.
pas dans l'émotion non plus, comme tu as dit tantôt, d'être neutre, de comme ça se peut j'en perds, ça se peut j'en gagne, puis comme let's see what happens.
100%, 100%. Puis tu sais, moi, j'ai jamais, comme on en a parlé au début, je ne suis pas une fan de finances, vraiment pas, ça n'a jamais été le cas. Puis pour moi, c'est important de dire que ça n'a pas besoin d'être si compliqué. Moi, je suis pas la fille la plus intelligente du monde, puis je m'assume, j'ai eu vraiment de la misère à l'école. J'étais souvent la petite deux-voix de la classe qui comprenait absolument focal. Fait que, tu sais, pour moi, les finances, là, je le dis toujours à la blague, qui est vraiment pas une blague. Si moi, j'ai pu comprendre, tout le monde peut comprendre. Fait que je vais jamais te pendre à espérer que mes clientes deviennent des fans de finances. Vraiment pas. Moi, ce que je veux qu'ils soient fans, c'est de leur rêve, leur vie, puis leur projet. C'est ça qui est important. Fait que moi, je vais te donner les outils financiers pour réussir ça, mais. Une fois que tu as compris la base, là, toi, tu fais juste viser tes projets, tes rêves. Tu ne vises pas un compte bancaire en question, là.
Non, j'aime ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a aussi la croyance, en tout cas perso, c'est ce que j'avais avant de m'intéresser un peu à plus les finances. Faut que j'aime les chiffres, faut que je sois une fille de maths pour comprendre mes finances, mais comme pas nécessairement,
Tellement
j'imagine.
pas.
En tout cas,
Ben
pas de mon
non.
côté, qu'est-ce que t'en penses, c'est ça?
100% pas, honnêtement. Tu sais, il n'y a rien de sorcier, là. Je veux dire, faire un budget, là, tu n'as pas besoin des grosses connaissances en finances. Pour vrai, ça prend du vouloir, du temps, de mettre le temps. Tout simplement, là, ça prend juste du vouloir puis d'arrêter de vivre dans le déni. Là. Je pense que c'est le plus gros problème que je vois avec comme 80% de mes clientes, le déni. Je veux pas fouiller dans mon compte de banque, j'ai peur de ce que je peux trouver. Ben, t'as pas le choix. Girl, c'est la première étape, là. Comme une fois que t'as fait le pire, tu vas te rendre compte que c'est pas si pire que ça. Puis une fois que tu commences à faire un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas, puis que tu vois que c'est pas si terrible, t'as envie d'en faire plein après, là, comme c'est sky's the limit, là, littéralement, avec ton argent, il n'y en a pas de fin. Fait que, une fois que tu commences à comprendre un peu comment. Ça marche, cette roue-là, ben t'as juste envie de suivre, là, carrément, là.
Ah ouais, tellement. Juste le fait d'avoir peur d'ouvrir l'application, son compte de banque, c'est comme first step, mais une fois que c'est fait après, comme tu dis, c'est tellement mieux. Puis on passe tout par là, je pense, un jour ou l'autre, de comme faire oh shit, ok, mes finances, c'est important. Puis c'est du développement personnel en même temps, là, tu sais, plus tu vas avoir ce vouloir-là, justement, d'améliorer tes finances, ben ça peut améliorer ton lifestyle, même t'sais, ton couple, t'sais, ton environnement autour de toi, puis tout ça, c'est important au final. J'aimerais ça qu'on finisse là-dessus, hein. T'as parti ton podcast cette année,
Oui.
la 2023.
2023, ouais. Fin 2023.
La cour des grands, c'est quoi ta vision avec ton projet podcast? De quoi tu parles? C'est pour qui? Etc.
Oui, ben mon projet podcast, c'est sûr et certain que je mets beaucoup de l'avant mon expertise à moi qui est les finances, mais je l'ai vraiment appelé sous la thématique scolaire parce que j'ai envie qu'on aborde vraiment tous les sujets que j'aurais aimé apprendre à l'école. J'ai vraiment eu un parcours scolaire très tumultueux, je suis vraiment pas gênée de le dire, puis je crois que le fait d'avoir appris peut-être des choses qui m'auraient été un peu plus utiles à l'école, tu sais, je pense rapidement, exemple, justement, les finances personnelles, la santé mentale, tu sais, j'aurais aimé ça avoir des cours de cuisine à l'école, je suis tellement focale en cuisine, tu sais, ça aurait pu me servir, comme, tu sais, d'alimentation, bien-être, tu sais, de confiance en soi, etc., des choses comme ça, vraiment, j'aurais aimé apprendre à l'école, j'aurais aimé à l'école apprendre comment gérer mon temps, comment m'organiser, moi, j'étais le genre de fille qui manquait tout le temps de temps dans ces examens, puis je comprenais pas pourquoi, je savais pas comment organiser mon agenda, c'était comme sans dessus-dessous, c'était terrible. Bref, c'est tous des sujets qui me touchent vraiment à cœur, puis je me dis, tu sais, si le gouvernement, ben, il ne le met pas dans le système scolaire, moi, je vais essayer d'en faire une mission pour partager mes connaissances. Fait que pour l'instant, évidemment, je mets beaucoup de l'avant mon expertise qui est les finances, comme je disais, mais je veux des invités qui vont vraiment pouvoir aborder, eux, leur expertise à eux, puis que je pense qu'il peut être pertinent, puis qu'il n'est jamais trop tard d'apprendre, un peu comme l'argent, il n'est jamais trop tard. S'organiser, il n'est jamais trop tard. La confiance en soi, il n'est jamais trop tard pour se mettre le nez là-dedans. Fait que c'est ça. Fait qu'éventuellement, je vais avoir de plus en plus d'invités. C'est déjà prévu, pour les prochains mois des nouveaux invités. Fait que voilà mon podcast.
Super! Je vais mettre aussi le lien de ton podcast dans la description de l'épisode. Puis, en terminant, celles qui désirent travailler avec toi puis prendre soin de leur argent, c'est quoi la meilleure façon pour te contacter?
Oui, ben Instagram, je suis très active sur Instagram. Sinon, on peut m'écrire par courriel, tout simplement, de façon très formelle, à info@commercialemiliecharlebois.com, sur mon site web aussi, emiliecharlebois.com. Toutes les infos sont là. Donc, je suis en gros changement pour mon service d'accompagnement. Il va vraiment évoluer. Pas qu'il n'est pas bien comme en ce moment, mais évidemment, je l'ai parti en octobre dernier, octobre 2023. Ça fait déjà quelques mois. Puis, je veux l'améliorer. Je veux vraiment offrir une expérience client encore plus élevée. Maintenant que j'ai vraiment ciblé ce que les gens ont
Yes.
besoin, ce que les gens veulent, je veux l'améliorer encore plus. Fait que, on peut vivre une super belle transformation avec ce service-là. Pour vrai, c'est un game changer. À mes yeux, tout le monde devrait passer à travers un service comme ça. Pas juste le mien, mais juste de l'accompagnement au niveau des finances. Pour vrai, ça change une vie littéralement, là.
J'adore. Merci Dieu. Merci Milly pour ta visite sur le podcast Génération
Merci à
YZ.
toi.
C'est super le fun, puis j'aime vraiment, tu sais, on a appris à te connaître, puis on a aussi eu des belles situations, slash conseils aussi pour mieux prendre soin de son argent, ses finances. Puis on s'entend, c'est un sujet qui va nous suivre toute notre vie. L'argent, les finances, ça va pas disparaître demain matin. Donc, merci, puis merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. N'oubliez pas de partager l'épisode en stories, Instagram ou Facebook, comme vous désirez. Puis nous taguer, je vais mettre aussi l'Insta d'Emily dans la description de l'épisode. Puis sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un autre épisode avec un expert. Cette fois, on reçoit un homme sur le podcast. Donc, c'était tout, puis à bientôt tout le monde. Bye bye.
Merci, Lou.